France Musique. Musicopolis. décembre 1898, Paris. La salle des Bouffes Parisiens se situe rive droite dans le 2e arrondissement de Paris, en plein centre. C'est traditionnellement un quartier de théâtre, à 50 mètres de l'ancienne salle Ventadour, 400 mètres de l'Opéra Comique, 500 mètres de l'Opéra Garnier, encore plus près du boulevard des Italiens et à un jet de pierre des grands boulevards avec tout son remue-ménage de spectacles et de divertissements. Les Bouffes Parisiens ont été longtemps occupés par Offenbach. C'est même lui qui a donné ce nom à la salle. Et depuis, on y représente des pièces lyriques légères, désignées sous le nom générique et bien pratique d'opérettes. En ce 10 décembre 1898, les Bouffes Parisiens donnent la première représentation d'une nouvelle opérette d'André Messager, Véronique. Messager n'en est pas à son coup d'essai. Voici une quinzaine d'années qu'il donne des ouvrages à la scène. Il a connu quelques succès, mais aussi des chutes retentissantes qui l'ont presque conduit à abandonner la composition et l'ont même amené à s'exiler en Angleterre. Enfin, heureusement, en cette archi-fin du siècle, tout s'annonce au mieux pour le maestro, qui non seulement compose, mais est aussi le directeur musical de l'Opéra Comique. Alors qu'est-ce donc une opérette, ce genre dans lequel André Messager obtient un immense succès en ce mois de décembre 1898 ? D'après son nom et le suffixe « ette », on pourrait penser qu'il s'agit tout simplement d'un petit opéra. Le passage du masculin au féminin le faisant en outre passer dans une catégorie un peu moins prestigieuse. C'est presque ça. Avec quelques précisions, dans ses ascendants, il y a aussi l'opéra comique, à savoir des numéros musicaux reliés par des dialogues parlés. Les créateurs de l'opérette, Hervé et Offenbach, y avaient introduit aussi une note assez satirique et souvent burlesque, mais qui n'était plus de mise après 1870 et la sévère défaite française. Le ton s'est donc transformé sous la Troisième République, plus sentimental, plus bourgeois, moins caustique. Pour Véronique, André Messager collabore avec deux librettistes qu'il connaît bien, Albert Van Loo et Georges Duval. C'est déjà avec eux qu'il a donné son plus récent succès, Les Petites Michues. De la création des Petites Michues, le critique du journal L'Intransigeant évoque l'ouvrage avant tout comme une œuvre de messieurs Van Loo et Duval. C'est bien ainsi que sont perçues les opérettes à cette époque. Non pas, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des morceaux musicaux reliés par des dialogues, mais au contraire comme une pièce de théâtre parsemée de musique. Ceux que nous considérons avec un peu de hauteur comme des librettistes sont alors les auteurs. Et donc voici l'article. Les auteurs des Petites Michues ont eu le bonheur de rencontrer un de ces musiciens chez lesquels sont réunis à la fois le savoir et la facilité. J'ai nommé M. André Messager. Avec quel art toute cette partition est écrite ! Combien de détails charmants dans l'harmonie, d'inspiration distinguée dans la mélodie ! Cette musique, elle s'adresse à la foule par tous les genres de séduction à la fois. Elle satisfait les délicats. Messager est de ceux qu'on peut féliciter, non seulement pour son talent, mais pour l'usage qu'il en fait.
Nous sommes toutes deux semblables avec la gaieté d'un poisson, maligne comme de vrais diables et l'effroi de la poussillon. Mais avec sa douce gentille, malgré nos airs de casse-cou, en résumé, fort bonne fille et pas méchante pour un sou. Deux fleurs sur une même branche qui volent l'une à l'autre connaît. Blanche Marie et Marie Blanche, les deux formes d'un tout complet, un tout complet.
Quelques années après la création des Petites Michues et de Véronique d'André Messager, son ami Gabriel Fauré écrit dans le journal Musica. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique d'un artiste d'une culture aussi complète, d'une science aussi approfondie, qui consente à appliquer ses qualités à des formes réputées, on ne sait pourquoi, secondaires. De combien de chefs-d'œuvre ce préjugé ne nous a-t-il pas privés ? Et c'est encore là que se révèle la délicatesse de pensée de Messager. C'est là que son éclectisme nous apparaît une enviable direction d'art. Avoir osé n'être que tendre, exquis, spirituel, n'exprimer que la galanterie des passions. Avoir osé sourire alors que chacun s'applique à bien pleurer. C'est là une audace bien curieuse en ce temps. Et c'est surtout l'affirmation d'une conscience d'artiste.
Ce sont des amoureux, échangeant une tendre aumône et le gai salut des passants aux ouvrières matinales, leurs compagnes et leurs rivales, qui vont prodiguant leurs chansons. Oh, ma tante, ma bonne tante, nous devrions, c'est bien certain, ne jamais sortir pour matin. J'y consens si ça te contente. Oh, ma tante, ma bonne tante, nous devrions, c'est bien certain, jamais sortir qu'au matin.
ça sera gai pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin.
Eh ben, ça sera gai pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin.
L'héroïne de Véronique s'appelle en fait, au début de l'œuvre, Hélène de Solanges. C'est une jeune aristocrate. Elle doit être présentée le soir même à son futur époux, Florestan de Valincourt. Elle l'a déjà aperçu et elle le trouve charmant. Alors que lui, à qui le mariage est imposé pour pouvoir payer ses dettes, ne la connaît pas et n'a encore rien fait pour entrer en contact. Justement, alors qu'Hélène et sa tante sont chez le fleuriste Coquenard, qui arrive avec ses amis, Florestan, qui est par ailleurs l'amant de la fleuriste Agathe Coquenard. Hélène et sa tante se cachent et assistent à la scène de rupture qu'elle commente en aparté.
Le sommeil veut ainsi. Me croyez-vous une âme ingrate? Au contraire, je fais serment de penser à vous tendrement.
Oh, perspective qui me flatte.
Le mal n'est pas irréparable, vous trouverez d'autres amours. Viendront ce teint si blanc, ces yeux au regard plein de charme. Que deviendront ce teint si blanc, ces yeux au regard plein de charme.
Charmant, charmant, au moins voilà du sentiment. Charmant, charmant.
Voyons, restons bons camarades, il faut se faire une raison.
Non, non, craignez la camarade pour payer votre trahison.
Et moi,
après avoir rompu avec Agathe, bonne chose de faite, Florestan n'a plus qu'une idée, aller s'amuser et oublier sa fiancée Hélène de Solanges, qu'il ne connaît pas, mais qu'il imagine, dit-il à ses amis, comme une bonne demoiselle de province, avec des airs modestes, une tournure guindée et des pantalons jusqu'aux chevilles. Ce que les familles appellent une perle et les hommes une petite dinde. On se souvient qu'Hélène écoute la scène en catimini. Ce mot de « petite dinde » la fait réagir et pas qu'un peu, jugez-en.
Ce monsieur ne me connaît pas, ce monsieur ne me connaît pas. Il ne sait rien de ma personne, ni si je suis méchante ou bonne, ni la couleur de mes cheveux, ni ce que sont mon nez, mes yeux, ni ce que sont mon nez, mes yeux. Et tout gonflé dans sa cravate, il veut trancher du gauche et de l'autre. Ah, monsieur Florestan, à nous de maintenant, entre nous, c'est la guerre. Et bientôt, je l'espère, je vous le prouverai tout seul. Petite dinde à mon bec. Et moi j'allais, pauvre ingénue, venir à nuit tremblante et mue. Je me faisais un doux roman dont il était le dénouement. Fière de me dire sa femme, je lui donnais. Monsieur Florestan, à nous deux maintenant, entre nous, c'est la guerre. Et bientôt, je l'espère, je vous le prouverai tout sec.
L'action est lancée. Pour se venger de Florestan qui la traite de « petite dinde », Hélène de Solange va se transformer en grisette, c'est-à-dire en jeune fille du peuple, ouvrière ou couturière, peu farouche mais néanmoins honnête. Sous ce nouvel habit, elle s'appellera Véronique. Et bien sûr, elle va séduire Florestan. Pour commencer, il se retrouve à une noce dans une guinguette de Romainville. En l'absence de moyens de transport plus commodes, la scène se passe vers 1840, Florestan y conduit Véronique sur un âne. Duo culte dont il existe de nombreuses versions. J'ai voulu vous faire entendre celle de Ninon Valin et André Baugé, enregistrée en 1924, donc du vivant de Messager. Elle gratte un peu. Deuxième strophe avec un autre tandem, Martha Angelici et Camille Moran.
En cueillant des fleurs dans l'herbe, elle a cueilli mon cœur, je veux croire.
Dans l'eau que l'on mette bien vite, marguerites et coques d'écot.
Combien je voudrais à huis clos interroger la marguerite.
De-ci, de-là,
de-ci, de-là,
carin-carin,
va chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci, de-là, carin-carin, le bigotateur récompensera.
De-ci, de-là,
de-ci, de-là,
carin-carin,
va chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci, de-là, carin-carin, le bigotateur récompensera.
Hélène de Solange, sous l'habit de Véronique, est en train de conquérir le cœur de Florestan de Valincourt. Elle s'en réjouit, mais elle ne lâche pas sa vengeance pour autant. Elle fait marcher son prétendant en lui rappelant qu'il est fiancé et qu'il doit rencontrer sa future le soir même. Deuxième duo culte.
Allons, soyez plus sérieuse.
Voilà plus grave.
Pourquoi vous montrez si moqueuse lorsque je suis à vos genoux?
Mais je pense à votre futur, puis je lui voler son époux.
Ma future?
Et oui, vraiment, votre futur. Elle m'occupe énormément, la chère créature.
Aura-t-elle votre gaieté et votre grâce enchanteresse? L'éclat de ce rire argenté, enfin cette fleur de jeunesse.
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
Non, non, pour moi la femme unique, c'est vous, c'est toi, c'est Véronique.
Je vous crois, monsieur Florestan.
Pour mieux me balancer, si ça me tente.
Pour pousser jusqu'au bout, non pas l'escarpolette mais sa vengeance, Hélène de Solange envoie à Florestan une lettre de rupture, à double sens, qu'il lit avec émotion. C'est Jean Perrier qui a créé le rôle du jeune premier, lui qui, 4 ans plus tard, sera le premier Pelléas dans l'opéra de Debussy. Henri de Curzon écrit à son propos « Avec quelle grâce aimable ne promenait-il pas dans la pièce sa physionomie d'Alfred de Musset ? Avec quelle élégance ne jouait-il pas, auprès de sa délicieuse camarade Mariette Sully, les scènes de l'âne et de l'escarpolette ? Avec quelle diction incomparable, quelle émotion vraie, ne lisait-il pas la fameuse lettre ?
Adieu, je pars, c'est mon devoir. Puisque ce soir on vous marie, ne m'accusez pas sans savoir, Monsieur Florestan, je vous prie. Il est quelqu'un qui vous attend, une bonne petite fille. Aimera tendrement, c'est bon, croyez-moi, la famille. Auprès d'elle, vous m'oublierez, je vous l'assure tout de suite. Et quand ce soir vous la verrez, vous serez sans plus qu'elle s'explique, que vous quitte bien tristement. Celle qui signe Véronique.
Bien sûr, ce n'est pas sur cette note mélancolique que Messager laisse les spectateurs de Véronique, puisque dans une opérette des bouffes parisiens, tout finit bien.
Par une faveur signe, en présence de la cour, un mot contre le roi signe, pour moi c'est un heureux jour. Il est une signature que je pleure également, messieurs, je vous en conjure, allons un bon mouvement. Messieurs, je vous en conjure, allons un bon mouvement. Pour une ennemie Véronique, montrez-vous bien doux, car l'une et l'autre s'appliquent à vous plaire à tous. Pour une ennemie Véronique, montrez-vous bien doux.
Messieurs, soyez-nous, car l'une et l'autre s'applique à vous plaire à tous.
Finale de Véronique d'André Messager avec Martha Angelici soprano, Camille Moran baryton, l'orchestre des concerts Lamoureux dirigé par Jules Gressier. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Pierre Monteil pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.